passion, c'est qu'on adore ça. On parle de ronflement avec vous, mais pas que, hein, évidemment. Le ronflement, c'est un... Comment on peut dire ça? Un symptôme de cette maladie qui est l'apnée du sommeil.
Oui, alors l'apnée, c'est, on peut comprendre ça assez facilement. Vous respirez, enfin nous respirons et nous mangeons. Et donc il y a au niveau de la gorge, au niveau du pharynx, toute une série de tissus mous et de muscles qui font que l'air va aller dans les poumons et que la nourriture va aller dans l'œsophage au niveau de l'estomac. Sauf que lorsque vous dormez, bien tous ces muscles et tissus mous se relâchent, se détendent, peuvent commencer à vibrer. C'est ce qu'on appelle le ronflement, avec parfois, je dirais, une attitude de ronflement chronique qu'on appelle la ronchopathie chronique et qui touche presque 25% des hommes et 15% des femmes. Et si le relâchement musculaire est trop puissant, eh bien on arrive à faire une obstruction des voies respiratoires et vous rentrez dans un état d'apnée. Alors on caractérise cette apnée dite obstructive d'abord en fonction de quelle est la diminution de l'air que vous respirez. Dès que vous dépassez plus de 30% de perte en termes d'air qui rentre dans vos poumons, on appelle ça une apnée. Si elle dure plus de 10 secondes, eh bien on appellera ça une apnée obstructive. Et puis si ça se répète un certain nombre de fois par heure, ça deviendra absolument sévère. Et donc on appelle une apnée obstructive sévère si vous avez par exemple plus de 30 fois par heure un arrêt respiratoire. Cet arrêt respiratoire signifiant une perte d'oxygène au niveau du sang. Et ça va provoquer bien entendu une dégradation de la qualité du sommeil, donc directement de la somnolence pendant la journée, vous devenez plus irritable, vous avez une baisse de libido, vous avez une augmentation de l'état dépressif, vous avez des maux de tête le matin, ce qui est plutôt rare, et vous avez aussi, dû à cette perte d'oxygène, du développement de l'hypertension artérielle et des troubles cardiovasculaires.
Mais ça fait beaucoup quand même.
Ça fait beaucoup et on estime à peu près à 1 milliard de personnes sur Terre entre 30 ans et 69 ans qui souffrent de cette apnée du sommeil.
Et est-ce qu'on s'en rend forcément compte quand on en souffre?
Non, justement, c'est ça qui est difficile. Le diagnostic est difficile à poser, sauf si vous allez voir un médecin et qu'on va dans un laboratoire dit du sommeil qui enregistre vos états d'apnée et qui dira, attention, vous êtes en train de faire plus de 30 apnées par heure, ce qui s'appelle l'apnée du sommeil sévère. Et la dernière étude publiée, c'est de voir effectivement si ce manque d'oxygène va affecter les fonctions cognitives de votre cerveau. Parce qu'il n'y a pas que l'hypertension, il y a le fait que votre cerveau doit s'alimenter en oxygène, ou sinon il ne fonctionne pas bien. Et l'étude a été publiée dans Frontiers in Sleep ce 6 avril 2023. C'est un groupe de 10 chercheurs et le premier auteur s'appelle Valentina Mignoni qui travaille à l'Institut de psychiatrie et de psychologie et de neurosciences au King's College de Londres. Et donc eux, ils ont pris 27 hommes qui souffrent effectivement de ce symptôme d'apnée obstructive, mais qui n'ont aucune comorbidité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obèses, ils ont un indice de masse corporelle inférieur à 30, ce ne sont pas des fumeurs, ils ne boivent pas, ils ont un bon, je dirais, ils ne sont pas hyper tendus, bref, c'est des gens qui ne présentent aucune comorbidité, mais qui ont ce syndrome d'apnée. Et ils les ont soumis. D'abord, ils ont mesuré leur type d'apnée. 26 d'entre eux avaient des apnées moyennes, à peu près 12 arrêts respiratoires par heure. Et d'autres avaient les 11 autres avaient une apnée dite sévère, puisque c'était 40 fois par heure qu'ils arrêtaient de respirer. Et ils ont fait subir à ces personnes toute une série de tests qu'ils s'appellent CANTAP, pour Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery. C'est toute une série de tests qui permettent de vous voir le fonctionnement cérébral. Par exemple, on vous montre un visage pendant 200 millisecondes et on vous demande, d'après vous, est-ce que son expression était heureuse, joyeuse, inquiète, etc. On vous présente des images et vous devez voir si vous arrivez à mémoriser l'image en la retrouvant parmi d'autres images. Donc c'est une série de batteries de tests simples à réaliser et faits par ordinateur. Donc il n'y a pas, je dirais, de subjectivité là-dedans. De même, un autre test, on associe deux mots. Est-ce que vous êtes capable de retrouver cette association? Je dis chien, cheval, et puis je vous demande, j'ai dit chien, quel est le deuxième mot? Si vous me dites cheval, c'est que vous avez mémorisé.
Ouais, j'allais dire cheval.
Voilà. Et donc, ils ont constaté effectivement une perte très importante. Donc, ces tests peuvent tester la mémoire, l'attention, la vigilance, les fonctions exécutives, la cognition sociale, les émotions, etc. Et ils ont montré qu'effectivement, l'apnée obstructive du sommeil fait diminuer la vigilance, fait diminuer les temps de réaction, donc les fonctions exécutives, fait diminuer la mémoire de reconnaissance faciale et aussi la mémoire dite émotionnelle. Et donc on voit effectivement une diminution nette et qui est proportionnelle à la sévérité qualité de l'apnée. C'est-à-dire ceux qui ont des apnées très sévères ont des scores encore plus bas que ceux qui ont des apnées légères par rapport à un groupe test qui n'a pas d'apnée. Et donc effectivement, il y a bien une répercussion de ces apnées sur le fonctionnement cérébral de ces personnes.
Donc moralité, on contrôle son sommeil. Parfois, c'est un peu les conjoints aussi qu'il faut écouter. Quand votre
Exactement.
Conjoint vous dit « Attention, tu ronfles » et en plus tu commences à faire des petits bruits bizarres, c'est généralement qu'il faut consulter.
D'autant plus qu'on peut porter un masque et vous êtes guéri à 100% de ce problème.
Bawane, est-ce qu'on a encore le temps pour une dernière question, une critique de cette étude, Pasquale ?
Oui, parce qu'effectivement, c'est une étude basée d'abord sur 27 hommes. Donc premièrement, l'échantillon est fort faible, 27 personnes, c'est pas beaucoup. D'autre part, il y a un biais puisque ce sont que des hommes. Et donc, effectivement, lorsqu'on fait une étude médicale, il faut faire très attention à l'échantillon, le nombre de personnes qui participent, et au fait qu'il n'y ait pas de biais dans cet échantillon. Donc, ils ont pris que des hommes, ils ont pris que des Britanniques. Tout ça fait un biais, évidemment, dans l'analyse. Mais ça permet d'ouvrir une porte, en tout cas, pour développer d'autres analyses dans d'autres pays, sur d'autres types de populations, évidemment.
Eh bien, merci beaucoup.
Mais